se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de grosses crevettes est à seulement 7,49€.
À ce prix-là, je vais en faire tout un plat.
De quoi vous faire de belles assiettes. D'ailleurs, vous m'en garderez une, hein ?
Bien sûr que oui.
Auchan, avec plaisir. 7,49€, le kilo de crevettes entières cuites réfrigérées. Penaus Vanamei, 25 à 35 pièces au kilo. Élevé en Équateur. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Vous écoutez
RMC.
Samedi 27 avril, bon réveil à vous.
Vous êtes bien sur RMC, il est 7h30.
RMC, la matinale week-end.
Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Anaïs Castagna, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Fin du blocage à Sciences Po Paris, un accord a été trouvé. Le verdict des agences Fitch et Moody's est tombé, la note de la France n'est pas dégradée. Et puis le roi Charles III va reprendre des activités officielles.
D'abord, le blocage de Sciences Po Paris, levé depuis hier soir aux alentours de 21h.
Alors qu'un accord entre les responsables de l'établissement et les étudiants mobilisés pour la cause palestinienne a été trouvé, la direction s'engage à organiser un débat interne d'ici jeudi. Toutes les questions pourront être posées, notamment celles sur les partenariats de l'école. La direction suspend aussi des procédures disciplinaires lancées contre des manifestants, manifestants dont la mobilisation fait clairement débat. Vous vous êtes rendu hier devant l'établissement, Ameline Lafchin.
Devant les locaux de Sciences Po, de jeunes manifestants, pancartes et drapeaux palestiniens en main. Au milieu de la foule, Mano, étudiant de Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye.
Je pense qu'ici, c'est particulièrement symbolique. Les universités, c'est vraiment là où il y a le débat étudiant, les réflexions. Moi, je pense que c'est très important d'être justement devant une université plutôt que dans un autre lieu à Paris.
De l'autre côté de la rue, des manifestants pro-israéliens.
Je suis en colère parce qu'ils ont enlevé le drapeau de la France sur la devanture de Sciences Po.
Maxime aussi étudie ici et dénonce un climat délétère dans les salles de classe. Pour lui, le conflit israélo-palestinien n'a pas sa place ici.
Aujourd'hui, le discours qu'on porte, c'est apaisement de la situation. On arrête d'importer un conflit dans les universités et on débat sereinement dans le cadre démocratique.
Victor, lui, est là car il devait participer à une conférence finalement annulée. Et même s'il comprend les revendications des manifestants, pour lui, bloquer l'établissement n'est pas la solution.
Le droit à manifester, c'est fondamental. Mais il y a aussi le droit à l'éducation. Et je vois mal en quoi bloquer une école va forcément aider à la prise de conscience ou à quoi que ce soit d'autre.
L'école a été débloquée dans la soirée après la publication d'un communiqué de l'établissement.
Sachez que le Hamas dit étudier une contre-proposition israélienne en vue d'une trêve dans les combats à Gaza et la libération d'otages.
Les agences de notation Fitch et Moody's ont rendu leur avis sur la note de la dette de la France.
Alors que le dérapage des finances publiques laissait craindre le pire, finalement les notes n'ont pas changé. Le gouvernement échappe à la sanction de Fitch et de Moody's. Cyprien Pézeril, c'est une bonne nouvelle pour l'exécutif.
Alors que certains dans la majorité craignaient de passer un week-end particulièrement désagréable, c'est le soulagement. Dans un communiqué publié dès l'annonce des résultats, Bruno Le Maire dit prendre note des décisions de Fitch et Moody's. Le ministre de l'économie qui rappelle le cap d'un déficit public sous les 3% en 2027. Pour cela, dit-il encore, il faut redoubler de détermination, comprendre, poursuivre dans la droite ligne des 20 milliards d'économies déjà annoncées. Des notations qui évitent au gouvernement de subir les attaques des oppositions. La droite l'accusait le mois dernier de mener la France sur la même trajectoire que la Grèce. Pourtant, dans l'exécutif, pas de triomphalisme. Une autre notation est bien plus redoutée, celle de l'agence Standard & Poor's, attendue le 31 mai, quelques jours avant les élections européennes.
Emmanuel Macron veut lancer une troisième convention citoyenne en 2024 après celle sur le climat et sur la fin de vie. C'est ce qu'il a annoncé hier lors d'un échange avec les membres de la convention citoyenne sur la fin de vie au Conseil économique, social et environnemental. Et puis Sarah Knafo, compagne et conseillère d'Éric Zemmour, en troisième position sur la liste de reconquête menée par Marion Maréchal Le Pen aux européennes du 9 juin. Elle l'annonce dans le Figaro. Après une première campagne de traitement à l'automne 2023, le Befortus, qui protège les bébés du virus à l'origine de la bronchiolite, a permis d'éviter 5800 hospitalisations. C'est ce qu'indiquent deux études publiées hier par l'Institut Pasteur et Santé publique France. Une première vague de traitement très encourageante, Pierre Bourgès.
Oui, avec ce traitement par injection, le risque de forme grave de la bronchiolite est réduit de près de 80% chez les nourrissons, selon l'étude. Les symptômes les plus graves sont rares, mais peuvent être sévères, notamment chez les bébés de moins de 2 mois, entraînant des infections pulmonaires et des difficultés respiratoires. C'est donc une bonne nouvelle pour Jérémy Docao, président du SNPEH, qui représente les pédiatres du milieu hospitalier.
Ça va être utile pour les enfants. Pour eux, ça va être potentiellement éviter une hospitalisation pour une bronchiolite. Ça va aussi ralentir la pression que ça peut avoir sur les urgences pédiatriques l'hiver. S'il y a moins d'hospitalisation, on a aussi moins de temps perdu à chercher une place d'hospitalisation.
Parce que l'étude de l'Institut Pasteur indique également que 5800 cas d'hospitalisation ont pu être évités grâce au traitement, alors que 35 000 nourrissons de moins d'un an sont hospitalisés chaque hiver. Le traitement permettrait donc de désengorger les hôpitaux déjà saturés à cette période de l'année. En 2024, le ministère de la Santé se prépare à sécuriser assez de doses pour immuniser 600 000 bébés, deux fois plus que l'année dernière.
RMC 7h35 et on en vient à cette bonne nouvelle du côté de la royauté britannique.
Oui, on l'a appris hier pour la première fois depuis l'annonce de son cancer en février dernier. Le roi Charles III va reprendre ses activités publiques dès la semaine prochaine, Anna Jojard.
Et oui, depuis l'annonce de son cancer le 5 février dernier, le souverain avait annulé tous ses engagements publics officiels pour se reposer et guérir. Et plus de deux mois plus tard, les premiers résultats sont encourageants. Les médecins du roi se disent même optimistes, mais pas question pour autant d'arrêter les traitements. Ce sera donc un retour à la vie publique en douceur. Ces apparitions seront décidées au cas par cas selon les recommandations des médecins. Mais deux dates sont déjà à l'agenda de Charles III. Mardi, aux côtés de la reine pour une visite d'un centre de traitement du cancer et l'accueil de l'empereur et l'impératrice du Japon en juin. En revanche, rien n'a filtré concernant l'état de santé de Kate Middleton, la belle-fille du roi, elle aussi atteinte d'un cancer.
Les précisions d'Anna Jojard, merci beaucoup Anna. L'événement de la matinée à suivre évidemment sur RMC, c'est le départ de la femme olympique ce matin du port du Pirée à Athènes, à bord du voilier le Belém. Départ prévu 10h pour un voyage de 12 jours direction Marseille où le nageur Florent Manaudou sera le premier relayeur. On va y revenir avec Amélie Oudéa-Castéra à 8h40 ce matin. La ministre des Sports sera notre invité, puisqu'on parle justement, tiens, des Jeux Olympiques. Les athlètes palestiniens devraient être 6 à 8 au JO de Paris, où le Comité international olympique les invitera s'ils ne parviennent pas à se qualifier. Voilà ce qu'indique son président Thomas Barr dans un entretien à l'AFP.
En football, peut-être un soir de sacre pour le PSG.
Les Parisiens ont besoin d'une victoire contre le Havre pour devenir champion de France pour la 12e fois. PSG, le Havre à suivre 21h ce soir. Hier, en ouverture de la 31e journée, Montpellier et Nantes se sont séparés sur un match nul, un partout. Tout à l'heure, en Ligue 2, Saint-Etienne à l'occasion de se rapprocher de la Ligue 1 face à Caen à 15h. Match qui sera sans doute suivi par quelques supporters lyonnais qui ont hâte de revivre les derbies enflammés face à l'ennemi stéphanois, Edouard Jay.
Oui, mais il faut d'abord déminer un peu le débat et c'est Grégory Cuiron, chef lyonnais réputé, qui le fait.
J'ai pas dit que j'étais supporter de Saint-Etienne, j'ai dit que j'étais pour qu'il monte. C'est pas la même chose.
Car qui dit monter dit derby et le vrai, pas celui qui oppose depuis 2 ans Lyon à Clermont, l'autre ville de la région, évacue David Louis, restaurateur à Vaux-en-Velin.
Ouais, Lyon-Clermont, mais ça fait loin, ça fait très très loin. Hein. S'il vous plaît, les Stéphanois, remontez vite, là, parce que des Lyon-Clermont, c'est pas terrible. Hein.
À tel point que David Louis est carrément en manque.
Énormément. Il y a une rivalité, des petites moqueries, des petits pics qu'on aime bien.
Vous pouvez préciser, Grégory Cuiron ?
Une saison sans derby, c'est pas la même chose. L'intensité des derbys, la saveur quand on gagne un derby n'est pas la même que quand on gagne un autre match.
Car les afters durent dans ce cas très très longtemps, du match aller au match retour.
Le fait de pouvoir se chambrer, parce qu'on a toujours des potes supporters stéphanois, hein, on choisit pas ses amis.
Des amis qu'une victoire des Verts face à Caen cet après-midi rapprocherait un peu plus d'un 125e épisode, tant attendu.
Et puis 2, 20, 39, 40, 47, et les étoiles, 8 et 4, vous savez de quoi je veux parler.
Ah, j'ai une petite idée, oui.
Ce sont les numéros qu'il fallait cocher pour pouvoir empocher la cagnotte de l'euro-million et espérer changer de vie.
Au revoir, Président.
Qu'est-ce que c'est que ce truc,
parce que oui, bah, il y avait de quoi changer de vie, 151 millions d'euros à gagner, et je vous annonce ce matin que personne ne l'a emporté.
Et vous êtes contente.
Mais bien sûr, 166 millions d'euros seront donc remis en jeu mardi prochain. Je voulais voilà, vous en parler, puisqu'après tout, on a le droit de rêver.
Oui, et il vaut mieux, effectivement. Quand on est réveillé tôt comme ça, le samedi matin, encore plus peut-être le dimanche matin, on a le droit de rêver. Vous avez raison. Donc, objectif mardi, hein, si j'ai bien compris.
Bah oui, non, mais je voudrais qu'on joue ensemble. Oui,
et on partage après.
Ah.
Vous connaissez bien le sûr, problème, Peggy. Vous connaissez le problème d'Anaïs.
C'est quoi?
Ben, elle veut gagner, elle veut gagner, elle veut gagner, mais elle
joue jamais.
Elle joue pas.
Voilà. On va pas s'en sortir.
Mais elle oublie pas de rêver.
Et vous n'oubliez pas de revenir à
8h30? Ben non, quand même.
C'est promis. À tout à l'heure.
Parce que c'est vous.
7h39 sur RMC.